La REF, la renaissance des entreprises de France à l'air libre. Un événement organisé par le MEDEF les 24, 25 et 26 août en direct de l'hippodrome de Paris-Longchamp.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Dernier jour, la REF, 26 août 2021, REF, renaissance des entreprises de France, avec des sujets sociétaux, des sujets sociaux, des sujets d'implication, la francophonie notamment. Il est 17h23 exactement. Je suis ravi d'être avec vous sur le plateau, accompagné de notre journaliste reporter, Élodie Rabel. Et nous avons un invité de prestige sur le plateau.
Oui, mais il s'agit ni plus ni moins que de Gilles Kepel. Bonjour.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous, si je ne me trompe pas, pour une interview un peu exclusive quand même. À la REF, vous nous avez fait le plaisir de nous accorder cette interview. Alors pour nos auditeurs, si vous ne le connaissez pas, vous allez le connaître. Gilles Kepel, c'est un politologue français, spécialiste de l'islam, du monde arabe contemporain, professeur des universités. Il dirige la chaire Moyen-Orient-Méditerranée à l'École normale supérieure. Gilles Kepel, vous êtes intervenu sur l'apparition d'opérateurs technologiques de pointe, souvent issus des services publics de renseignement, qui commercialisent des outils intrusifs qui modifient les enjeux sécuritaires d'une époque marquée par le terrorisme et le retour des tensions internationales. On a bien sûr tous entendu parler de l'affaire Pegasus. Pegasus, qu'est-ce que c'est ? C'est ce logiciel d'espionnage conçu par la société israélienne NSO Group, un logiciel vendu exclusivement aux États. Comment ça marche? Ce Pegasus est introduit dans un smartphone. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il écoute les appels téléphoniques. Plus grave encore, il absorbe tout le contenu du téléphone, photos, données, messages, même si les applications dites sécurisées sont vendues comme ça, le tout sans que le propriétaire ne s'en rende compte. Une affaire qui a défrayé la chronique, on en a tous entendu parler, et parmi les victimes, 1000 Français, parmi eux de grands noms, Emmanuel Macron, le président de la République, François de Rugy. L'affaire Pegasus, ça pose de nombreuses questions en termes de cybersécurité. La question que je vais vous poser, c'est comment s'en protéger? Quelle riposte on peut mettre en œuvre?
Le monde de la cybercriminalité, en fait, s'est étendu aujourd'hui à énormément de domaines. Et bien sûr, celui que vous avez mentionné, dont je ne suis pas le meilleur spécialiste, et également à toucher aux mutations du djihadisme contemporain. Et c'est ça qui me frappe énormément. C'est à travers et grâce à ce cyberterrorisme, si vous voulez, qu'on peut passer à ce que j'ai appelé dans mon dernier livre, Le prophète et la pandémie, le djihadisme d'atmosphère. C'est-à-dire que là où nous avions autrefois, par exemple à l'époque d'Al-Qaïda, un réseau pyramidal qui donnait des ordres, qui envoyait piloter des gens, donc il y avait des ordres qui étaient donnés, on passait des coups de fil de temps en temps, mais on n'était pas du tout dans ce monde. Ensuite, on est passé à un autre système déjà en réseau, celui de Daesh, où ça n'était plus pyramidal, mais donc réticulaire, et vous aviez des gens qui partaient de l'État islamique, qui revenaient en Belgique, qui attaquaient la France, en étant en permanence en connexion les uns avec les autres. Aujourd'hui, après les bombardements massifs de Daesh par la coalition internationale, et son effondrement et la mise en détention de la plupart, ou la mort de la plupart de ses dirigeants militants après 2019, on a une nouvelle forme de djihadisme qui se développe grâce à l'univers du cyber et que j'ai appelé donc le djihadisme d'atmosphère. C'est-à-dire que vous avez les réseaux sociaux et autres, que ce soit des réseaux cryptés ou des réseaux en accès public, qui sont utilisés par ce qu'on pourrait appeler des entrepreneurs de colère, pour citer mon collègue Bernard Rougier, qui a formulé ce terme, vont cibler des individus, les désigner comme des gens à abattre, les détruire en termes réputationnels, construire d'eux des images épouvantables. Et après cela, sans qu'il y ait de lien de cause à effet direct entre l'entrepreneur et celui qui va passer à l'acte, vous avez des individus qui ont été préalablement endoctrinés et qui lisent ces choses-là et qui vont prendre les choses en main.
Ce que vous décrivez, c'est ce qui s'est passé avec Samuel Paty.
Tout à fait, oui. L'exemple de Samuel Paty en est malheureusement...
Donc un individu, en fait, se connectant, se sent inspiré par ça, c'est le principe de l'atmosphère, et se sont investis de cette mission en disant « je vais le faire ».
Voilà.
Il n'est pas commandé par quelque chose de direct, il est pénétré par cette atmosphère.
Oui,
c'est
exactement.
Ça,
hein. Et d'une certaine manière, comment dire, la métaphore,
c'est
peut-être
terrifiant.
Celle du virus.
Ouais,
c'est
terrifiant.
C'est un
lavage de cerveau.
C'est une diffusion météorique ou par aérosol, si vous voulez. Voyez. Et ça pose un énorme problème. Alors, c'est un peu... On n'est pas si loin de la question que vous me posiez à propos de Pegasus. Ce n'est pas mon expertise, ça, mais ce sont des choses qui sont faites par des individus dans lesquelles la chaîne de causalité n'est pas démontrable. Par exemple, vous arrêtez, vous tuez Anzorov, et après, alors on a incriminé des individus qui avaient ciblé le professeur. Mais qui avait dit des pires horreurs lui, mais qui n'avait pas dit explicitement il faut le tuer. Donc,
bien sûr.
On ne peut pas.
Notamment sur Facebook, par exemple.
Voilà.
Des choses...
voilà,
on a remonté
pas...
toute la chaîne de messages. Mmh. Il y avait des témoignages qui ont dit j'ai été surpris de recevoir cette vidéo.
Oui, bien sûr.
Tout ça par des chaînes WhatsApp, en fait, et c'est sans fin.
Oui, ou par mille autres messageries, etc.
Ouais, difficilement contrôlable.
Comme radio, d'une certaine manière. Mmh. Et justement, ça nous fait complètement changer de dimension. Et
parce que pour vous, c'est une nouvelle forme de...
À mon avis, c'est la phase actuelle du djihadisme. C'est celle dans laquelle nous sommes entrés. Alors, d'habitude, pour les phases précédentes, il a fallu beaucoup de temps, aussi bien à la communauté de renseignement qu'aux universitaires, etc., pour comprendre la mutation de la structure. Par exemple, l'attentat d'Al-Qaïda, dont on va commémorer le 20e anniversaire, hein, contre les tours jumelles, le 11 septembre 2001, c'est quelque chose qui a complètement pris au dépourvu les systèmes militaires occidentaux, qui étaient encore, bien que l'Union soviétique n'exista plus depuis 1989, dans une logique... De guerre froide, si vous voulez, par leur panoplie, leur méthode d'attaque, etc. Et donc, ils ont su utiliser les failles. Et on a compris le système Al-Qaïda beaucoup plus tard, et on a commencé à l'attaquer à travers cette structure pyramidale. Ensuite, Daesh, lui, a fonctionné d'une manière réticulaire. Les services de renseignement étaient toujours sur le logiciel d'Al-Qaïda.
Bien sûr.
Et personne n'a compris que les gars allaient passer par la Belgique pour attaquer la France. Et on a mis un certain nombre de temps. Il y a des choses qui ont fait beaucoup de mal. Par exemple, le concept de loup solitaire, c'est un concept bidon, qui a servi de cache-misère au retard de nos services de renseignement, utilisé par le patron de renseignement de l'époque, et au moment de l'affaire Mera. Mera n'était pas du tout un loup solitaire. Mera avait été endoctriné très précisément dans la communauté d'Artigat, près de Toulouse.
Bien sûr.
Son frère était allé dans les écoles salafistes radicales en Égypte et ailleurs. Il faisait pas.
Oui,
il était lié au frère Klein.
Il était avec Olivier Corel.
Voilà, c'est ça, tout à fait.
L'instigateur idéologique, on va dire.
Voilà, mais Corel, c'était toujours très attention.
Oui, très soigneusement.
Je vais dire, c'est pas moi.
Absolument.
J'ai jamais dit, moi, je donne. Et il était un peu le précurseur de la situation actuelle, si j'ose dire.
Instillé de façon assez pernicieuse.
Ce qui s'est passé, c'est qu'en se focalisant sur le loup solitaire, on se trompe de logiciel. On ne comprend pas, ce n'est pas un loup solitaire, Mera. Et donc, Mera, c'est 2012. Le fait de ne pas être capable d'analyser l'affaire Mera en 2012 va mettre notre système de renseignement et notre capacité d'analyse complètement à nu. Lorsque on aura les attentats de Charlie Hebdo, puis du 13 novembre 2015.
Mais finalement, analogie identique à l'attentat de l'hypercacher avec Koulibaly et les frères Kouachi.
C'est la même chose.
Oui, absolument.
C'est la même logique.
Même process. Si
c'est parti de la filière des buts de Chaumont.
C'est 2015, Mais ce que je crois, c'est que si on prend au sérieux cette notion de djihadisme d'atmosphère, c'est-à-dire le djihadisme qui est basé sur le monde du cyber, si vous voulez, après le constat, c'est une chose, mais la mise en œuvre de la, la thérapie, je veux dire, c'en est une autre, on est moins en retard, le gendarme est moins en retard par rapport au voleur qu'il ne l'était pour les phases précédentes.
Alors l'écart se réduit, pour autant est-ce qu'on peut dire que la sécurité des renseignements français aujourd'hui est à jour pour pouvoir nous prémunir d'éventuelles nouvelles attaques terroristes ?
Ça, malheureusement, je n'en sais rien, ne faisant pas partie de la communauté du renseignement, mais je ne voulais pas parler à leur place, mais je pense que s'ils vous leur posiez la question, ils seraient évidemment obligés de se réfugier, enfin même de se, pas un refuge, mais de, d'exprimer la plus grande prudence, puisque aujourd'hui, même dans l'université, on essaie de travailler sur ces nouveaux modes de fonctionnement, parce que ils sont d'une certaine manière en phase avec d'autres mutations de la société. Je vous ai parlé du virus tout à l'heure, et le mode de diffusion du djihadisme d'atmosphère et le mode de diffusion de la Covid-19 sont d'une certaine manière assez congruents. Vous voyez, ils fonctionnent dans, ils témoignent l'un et l'autre, chacun à leur façon, des mutations profondes, non seulement de nos communautés locales, mais les internationales. Ils se produisent dans un monde dérégulé où les États-Unis ne font plus peur à personne. Aujourd'hui, la chute, enfin la oui. chute de Kaboul, l'attentat qui vient d'avoir lieu.
On pourrait même imaginer, dans une certaine mesure, en prenant juste un petit peu de hauteur, et c'est la question que je brûlais de vous poser, mais ça fait un moment que je l'ai en tête. C'était en prenant un petit peu de hauteur. Vous avez parlé du terrorisme pyramidal incarné par Al-Qaïda, réticulaire par Daesh, d'atmosphère maintenant sur. Ça s'arrêtera pas. Ce que je veux dire, je veux plus loin. Cette forme de terrorisme qui terrorise la planète, elle est protéiforme. Est-ce que c'est un mal finalement que vit d'une façon quasi anthropologique notre civilisation, notre société moderne, qui est peut-être malade, malade démocratiquement, malade de gouvernance, peut-être des questions qui se posent uniquement à l'aune d'une civilisation qui est en question. Là-dessus, si on y rajoute un cataclysme sanitaire comme ce que nous venons de vivre, effectivement, tout ça est de nature à générer une certaine forme de schizophrénie, peut-être de stress global. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ce terrorisme, ce djihadisme, qui a pris en otage l'islam, il faut le dire aussi, en quelque sorte peut-être, va perdurer peut-être dans le temps, ou est-ce qu'un jour il y aura un terme à cela ou pas ? Est-ce que c'est quelque chose qui est endémique à la nature de notre période aujourd'hui que nous vivons, que nous partageons tous ?
Alors sur sa durabilité, je ne pourrais pas vous prononcer. Je pense qu'il me survivra en tout cas. Même si c'est pour l'instant j'ai survécu parce que j'ai été condamné à mort par Daesh, et
oui,
c'est ceux qui l'ont fait qui sont morts et pas moi pour l'instant. Mais bon, moi, ça m'arrivera.
Vous étiez sur une liste effectivement.
Oui, oui, j'ai passé un an et demi sous protection policière. Et je ne sais pas ce qu'il en est de sa durabilité, mais en tout cas, ça n'est pas quelque chose qui est déconnecté des mutations du monde contemporain, de même que le virus. Est lié, alors il y a toutes sortes de théories sur son origine,
oui,
à Wuhan
sûr.
Dans un labo, je ne suis pas compétent là-dessus, mais il est en tout cas le produit d'une mondialisation dérégulée dans laquelle la Chine, d'où le virus est venu, on ne sait pas comment, mais il est venu, joue un rôle absolument fondamental. Il ne se serait pas produit à l'époque de l'Union soviétique, si vous voulez, voyez,
clair.
À l'époque, parce qu'il fait partie d'une économie mondiale dérégulée et pleine aussi de tricheurs. Comme
c'est un peu
économies.
Une nouvelle polarité qui, effectivement, bouleverse, rabat les cartes.
Oui,
quoi.
Mais c'est même plus une polarité, c'est une multipolarité,
oui,
un éparpillement, si vous voulez, dans lequel on a toutes sortes d'acteurs non responsables, non alignés, qui vont passer à l'action. Par exemple, l'OTAN, aujourd'hui, ne fait plus peur à grand monde. Kaboul l'a montré. Et aussi, vous avez un membre de l'OTAN, sa deuxième armée en termes numériques, qui est la Turquie, qui mène sa propre politique, achète des missiles à la Russie, a dans un premier temps applaudi à la victoire des talibans. Bon, maintenant, c'est de mettre un peu d'eau, si j'ose dire, sinon dans leur vin, sinon dans leur raque. Et qui a eu des positions très hostiles à d'autres membres de l'OTAN que sont la Grèce et Chypre. Et tout ça nous pose un très gros problème, si vous voulez. Vous avez des situations politiques qui, en témoignant de la fin des alignements, vont favoriser les États dits rogues ou voyous ou canailles dans la langue qu'on doit utiliser. Et ça, c'est très nouveau. Il faut bien se dire que... Alors, on peut comprendre la logique des États-Unis qui dit, bon, bah, après tout, l'Afghanistan, ça nous a coûté des fortunes, ça n'a servi à rien. On aura quelques semaines de mauvaise couverture média, mais ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est de se mettre en ordre de bataille face à la Chine. Après tout, bon, dans les coûts et bénéfices d'un système démocratique élu, on peut comprendre que ce soit, c'est peut-être cynique, mais la volonté d'une équipe gouvernant les États-Unis.
Ou dramatiquement cynique, parce qu'effectivement, revenir après 20 ans en arrière pour le même
résultat... Oui, il y a ce côté, avec en plus l'anniversaire du 11 septembre, donc ça c'est assez impressionnant, par la coïncidence, justement, non voulue. Mais en tout cas, c'est très significatif d'un monde qui connaît aujourd'hui une forme de dérégulation sans doute jamais vue depuis 1945, vous voyez. On avait eu les deux blocs. Bon, alors les deux blocs se battaient, mais au fond, on faisait du chantage. L'un, je détruis Moscou. Moi, je détruis Pennsylvanie. Il y avait l'équilibre des ICBM.
Au Cuba, les États-Unis. Voilà. Avec effectivement des tensions, mais qui n'ont jamais. Bien sûr. Voilà.
Bon, et l'Afghanistan a rompu l'histoire. C'est-à-dire les États-Unis ont réussi leur coup, d'une certaine manière, en faisant de l'Afghanistan le Vietnam de l'URSS. Et le retrait soviétique de Kaboul, à quoi fait penser celui d'aujourd'hui des Américains, le 15 février 1989, ouvre la voie à la chute du mur le 9 novembre, d'ailleurs, le 9-11, lui-même préparant le 11-9 un peu plus tard.
Intéressant.
Et je ne suis pas numérologue, mais les djihadistes sont beaucoup dans la numérologie. Et ce sont un peu des kabbalistes, ces choses-là de l'islam. Et donc,
une forme de gématria moderne. Quoi.
Voilà. Et donc, aujourd'hui, on a un système où vous avez eu d'abord la domination américaine sous le vocable de l'hyperpuissance, comme l'a qualifié Hubert Védride. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'hyperpuissance, puisque la Chine est arrivée. Ce n'est pas la même chose que l'URSS. L'URSS qui ne joue plus comme acteur de premier plan mondial, qui reste présent aussi à travers sa capacité de nuire la Russie, pardon. Mais les modes d'affrontement avec la Chine sont très différents et ça laisse de l'espace à toutes sortes d'acteurs. Les Chinois ont reçu en grande pompe l'état-major taliban il y a 3 semaines à Pékin. Montrant que donc ils étaient des interlocuteurs tout à fait acceptables et que finalement ça les intéressait plutôt d'avoir des gens qui pourraient mettre une épine dans le pied des Américains.
Je trouve ça terrifiant, voilà. C'est sidérant.
Terrifiant, vous savez, si vous étiez dans un pays bombardé par une coalition adverse il y a 20 ans, on voyait ça aussi de manière terrifiante.
Parce que nous,
à notre âge, je suis sans doute plus âgé que vous, malheureusement pour moi, mais on a vécu, on voit aussi s'effondrer ce qui était les critères, les repères du monde dans lequel nous avons été élevés. Et moi, en dépit donc de mon âge avancé, j'essaye justement de rester alerte et de comprendre, de m'appuyer sur ce que je sais du passé pour comprendre les défis du présent et essayer de poser des questions sur ceux du futur.
Mais c'est bien de ça dont il s'agit, c'est-à-dire d'une absence peut-être d'une certaine période de mémoire ou de culture historique, malheureusement de certains. Et qui donc fait seulement répète peut-être les mêmes erreurs du passé. Je trouve qu'on a toujours très intérêt à bien maîtriser l'histoire des époques et des sociétés pour ne pas répéter les mêmes choses. Mais
oui,
c'est quand même assez triste aujourd'hui de voir un résultat comme celui-là.
L'histoire nous apprend aussi des éléments de permanence. Les États, vous savez, De Gaulle appelait toujours l'URSS la Russie. Parce que, au fond, pour lui, Staline était le descendant des tsars et Poutine en est un autre, d'une certaine façon. Xi Jinping s'inscrit tout à fait dans la politique impériale de l'Empire du Milieu, qu'il soit communiste ou non. C'est d'ailleurs très intéressant que le Parti communiste chinois est communiste, ce qui veut dire que seuls les dirigeants du parti ont le droit d'être capitalistes, si vous voulez, ce qui est une assez bonne synthèse, finalement, de votre enfance et de la mienne.
Je trouve que là, Elodie.
Si je peux oser une question, si c'est un peu provoque, si on, je peux comprendre qu'il faut... avoir un bagage historique pour expliquer les choses qui se sont passées, même les choses les plus tragiques comme des attentats, ne sommes-nous pas juste condamnés à comprendre en réaction à ce qui s'est passé, ne pouvons-nous pas utiliser l'histoire pour anticiper et prévenir les actes terroristes ?
Mais c'est un peu l'objet de la discipline que je pratique, que j'essaie de pratiquer, c'est-à-dire la science politique, c'est la mise en perspective historique et géographique. Je ne sais pas si on a pas de livres là, mais ils sont à côté, mais on pourrait montrer les cartes à l'écran pour vos téléspectateurs. Justement, mon collègue Fabrice Ballange, qui est un excellent géographe, construit à partir de cartes dont il identifie les éléments saillants. Par exemple, aujourd'hui, l'axe fréro-chiite au Moyen-Orient contre le pacte d'Abraham, c'est-à-dire l'alliance qui soutient les frères musulmans, Turquie, Qatar, qui s'allie paradoxalement à l'Iran, contre le pacte d'Abraham, c'est-à-dire l'alliance où il y a autour d'Israël et des Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, l'Égypte, le Maroc aujourd'hui, le Soudan, la Jordanie, ce qui était quelque chose qui aurait été... qui serait apparu totalement impensable. Il y a 40 ans.
Oui, absolument. J'ai connu aussi ces... Mais Gilles Kepel, est-ce que c'est parce que c'est l'islam, mais ça aurait pu être n'importe quelle religion ? J'ai envie de poser cette question. Elle est peut-être un peu naïve ou candide, mais...
Mais c'est à partir du moment où...
L'islam n'avait pas de prédisposition à être pris en otage par une bande de... Enfin, bref,
À partir du moment où vous avez une conception littérale du texte et où ceux qui tiennent...
Pas plus qu'un autre texte.
Ceux qui tiennent le pouvoir d'interprétation sont des littéralistes. Ce sont ceux qui contrôlent. Et que ceux qui ont voulu... construire une interprétation allégorique ont été marginalisés. Ce qui se passe aussi dans des régimes autoritaires. Parce que les régimes autoritaires ont besoin de religieux qui prêchent d'un côté l'obéissance et de l'autre côté, les dissidents vont s'appuyer également sur la religion au sens strict pour renverser le despote. Donc à partir du moment où vous avez des systèmes non démocratiques, vous ne pouvez pas avoir d'évolution type aggiornamento dans l'Église catholique ou dans les innombrables élaborations du judaïsme qui vont de la psychanalyse au marxisme, si j'ose dire. Puisque ce sont des termes tous les cas.
De Mao à Moïse.
On passant par Freud. Et donc, et vice-versa. Et on l'a vu justement quand des États musulmans ou des sociétés musulmanes se sont ouvertes culturellement, paradoxalement, à l'époque de la colonisation du reste, ce qui est un propos et non pas du tout politiquement correct ce que je dis, vous avez eu une forme d'interprétation de la, des textes qui a été beaucoup plus allégorique, beaucoup plus située dans un contextualisé. Aujourd'hui, c'est assez difficile. Même si l'élément important, c'est que justement, avant même le pacte,
ça peut être des courants comme le soufisme, oui, le bahaïsme, par exemple.
Oui, le bahaïsme est perçu comme une dissidence. Mais sur un socle de
l'islam,
plus ou moins. Mais ce qui est très frappant, là où le phénomène, je ne parle pas des enjeux politiques, ça chacun en jugera, mais le rapport au texte, ça s'est quand même beaucoup changé, c'est l'Arabie saoudite, qui était le soutien principal de l'interprétation la plus rigoriste d'un wahhabisme d'où le djihadisme est né, et qui, aujourd'hui, sous la houlette, la férule même de Mohammed ben Salman, a complètement changé le rapport de la société au texte. Moi, j'avais été interdit de séjour plusieurs années en Arabie saoudite à la fin du règne précédent. Et quand j'y connaissais assez bien, peut-être pour ceci explique peut-être cela, et quand j'y suis retourné sous les nouvelles autorités, j'ai à peine reconnu le pays. C'est-à-dire que, bon, en termes de relations entre les hommes et les femmes...
D'ouverture.
Voilà, c'est ça. Alors après, on peut discuter à l'infini du système politique. C'est pas de ça que je parle.
Enfin,
dans le rapport aux religieux, il y a eu des choses qui se sont transformées. Alors, ça ne veut pas dire que tout est rose partout, mais les sociétés créent un rapport à la religion autant, au moins, que les religions créent le rapport à la société.
Il nous reste 2 minutes. Élodie, vous vouliez poser une question ?
Moi, je suis transportée par cette conversation. J'en apprends beaucoup de choses. J'espère que nos auditeurs aussi.
Moi, j'ai envie de poser une question. Encore une fois, en essayant de prendre une certaine hauteur. Est-ce qu'il est, il n'est pas temps, finalement, de réfléchir quelque part à une prise de conscience peut-être des modèles de gouvernance, des modèles de gouvernement. Concrètement, Gilles Kepel, alors je sais que bon, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une réflexion. Est-ce que la démocratie telle qu'on l'a connue, bon, moi j'ai 56 ans, on a vécu une décade, la fin d'une décade, la fin d'un siècle et la fin d'un millénaire. C'est arrivé 3 fois dans le calendrier connu. Question, est-ce que quelque part la défense d'une démocratie ou des démocraties européennes modernes ne demande pas aujourd'hui une profonde réflexion philosophique, anthropologique, sociologique? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes optimiste sur cette prise de conscience qui dépasse tous les clivages?
Si on se réfère effectivement à la grande illusion de ce qu'on a appelé les printemps arabes, effectivement,
la grande illusion,
logiciel
ouais.
n'est ouais. pas terrible, parce que le dernier est un arabe qui avait en condition démocratique la Tunisie, a vu un contrôle à peu près désormais de tous les pouvoirs par le président, dans un contexte où, il faut le dire, les institutions démocratiques tunisiennes n'ont pas été à la hauteur, puisque, je me souviens, j'étais allé accompagner le président Macron en Tunisie, il a fait un discours au Parlement, le symbole, il y avait un tiers des députés présents. Parce qu'ils faisaient leur business à eux, si vous voulez. Donc à partir de ce moment-là, la démocratie tunisienne a été assez rapidement considérée dans son mode de fonctionnement par une grande partie de la population comme quelque chose qui était dysfonctionnel, qui était simplement le lieu dans lequel des élites s'étaient partagé le gâteau. Et donc, alors c'est pas pour ça qu'il faut condamner le système, mais si vous voulez, une démocratie ne peut fonctionner qu'à partir du moment où elle est portée par une classe moyenne entrepreneuriale dont la création de richesses bénéficie également, même de manière complexe, aux couches populaires. S'il y a une captation du pouvoir et un détournement
c'est une forme quasi oligarchique.
Des fins du modèle, après, bien évidemment, ça ne fonctionne plus et on a d'autres types d'avantages.
Est-ce que les démocraties sont en danger en Europe ?
En Europe, je ne pense pas qu'elles le soient de manière intrinsèque. Mais il est clair que si l'Europe n'assure pas, selon moi, une défense commune face à aux dangers qui viennent de ses frontières proches, si elle n'a pas une capacité de projection et si elle continue à se mettre exclusivement sous le parapluie de l'OTAN, on a bien vu les Afghans.
Donc pour vous, l'Europe, c'est aussi la francophonie, l'Europe en tant que telle.
Oui, enfin la francophonie ou autre, mais l'Europe, c'est aussi d'avoir une politique de défense et une politique étrangère commune, sinon on ne sera plus que le réceptacle passif des différents flux qui traversent le monde.
Merci beaucoup Gilles Kepel, j'espère avoir l'occasion de vous revoir dans Paris,
merci
dans nos
vous.
Studios, ce sera un vrai plaisir, on a bu littéralement vos paroles, c'était
merci.
Voilà, passionnant, merci, en tout cas vous restez connectés bien sûr sur nos applications et bien sûr vous likez, vous commentez et vous partagez, merci Gilles Kepel.
Merci à vous.
La REF, la renaissance des entreprises de France à l'air libre. Un événement organisé par le MEDEF à réécouter et télécharger sur le site et l'application radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.